croient propres époux. Quelle est la voie de leur sanctification au quotidien? Comment faire face au sentiment d'imperfection ou d'inachèvement qui peut s'emparer de nous lorsque nous constatons que les aspirations les plus profondes que nous concevons dans la vie conjugale ne sont pas comblées? Comment faire face à l'échec dans la vie conjugale? Comment assumer le fait que certaines souffrances ou blessures peuvent s'avérer un jour trop lourdes à porter? En exergue de ces réflexions, je vous propose cette affirmation de Jean-Paul II sur la communauté conjugale. Le mari et la femme, dit-il, sont soumis l'un à l'autre, subordonnés l'un à l'autre. La communauté ou unité qu'ils constituent en raison de leur mariage se réalise dans une donation réciproque qui est également une soumission réciproque. Et pour tenter de répondre à ces questions cruciales sur les souffrances auxquelles nous expose la vie conjugale, je vous propose d'envisager trois perspectives. D'abord, la question de la soumission dans le mariage. Revient-elle uniquement à l'épouse? D'autre part, du fait de nos misères et de nos faiblesses, comment appréhender l'inévitable inachèvement du don dans le mariage? Et pour finir, quelques réflexions sur la terrible et crucifiante question de l'échec. C'est dans la lumière des rapports nuptiaux du Christ et de l'Église que les époux doivent envisager leur relation dans le mariage. Cette lumière, on la trouve particulièrement exprimée dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. On en retient souvent et uniquement le précepte inaugural, celui de la soumission des femmes, que les femmes soient soumises à leur mari. C'est réducteur et, pour tout dire, faux. Et Jean-Paul II est le premier à avoir affirmé dans son commentaire de ce cinquième chapitre de l'Épître aux Éphésiens que même si le texte de l'Épître ne l'exprime pas explicitement, mari et femme doivent être réciproquement soumis l'un à l'autre pour réaliser ainsi la plénitude de la vérité du don conjugal. Et il est évident que ce n'est pas là une concession à la parité homme-femme actuellement en vogue. Pourquoi le pape peut-il affirmer ce principe de la soumission réciproque? Eh bien pour deux raisons. D'une part, en vertu de la qualification que saint Paul donne à la soumission de la femme, elle doit être soumise à son mari comme au Seigneur Jésus, et non pas comme à un maître qui imposerait une domination unilatérale. En s'exprimant ainsi, l'auteur de l'Épître n'entend pas dire, dit Jean-Paul II, que le mari est le maître de la femme et que le pacte interpersonnel propre au mariage est un pacte de domination du mari sur la femme. Il exprime au contraire un autre concept, poursuit le pape, c'est-à-dire que la femme peut et doit trouver dans ses rapports avec le Christ, qui est pour l'un et pour l'autre époux l'unique Seigneur, la motivation de ses rapports avec le mari qui découle de l'essence même du mariage et de la famille. Deuxième raison, parce que pour bien comprendre ce précepte, il faut tenir compte également de la suite du texte, qui dit un peu plus loin, « Aimez-vous, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. » Et il faut voir que l'amour du Christ pour l'Église est un amour de donation totale, qui conduit d'ailleurs jusqu'au sacrifice de la croix. Et l'amour du mari envers sa femme doit donc le conduire à se donner pour elle comme le Christ s'est donné à l'Église, c'est-à-dire pour la sauver par l'offrande rédemptrice de sa vie. La raison de la soumission réciproque des époux est donc l'amour qui les unit, qui pour être un amour en vérité doit être un amour total de don de soi, ce don total de soi qui est exprimé dans la troisième formule du sacrement du mariage. Je...